Bienvenue sur le plateau radio des 4e 4 du Collège Paul Bert.
Merci Mathéo. Notre enquête du jour est « Comment devenir libre après 1794 ?»
Effectivement, Léa, répondre à cette question est un sacré défi. Nous allons voir qu'au cours des deux derniers siècles, les voies de la liberté sont multiples.
Tout à fait, Sacha. Et pour commencer, ce sont d'abord les esclaves eux-mêmes qui refusent leur soumission. Certains fuient et pensent ainsi devenir libres. À ce propos, nous avons rencontré Monsieur Brudet, un artiste impliqué dans la mémoire de l'esclavage et qui veut monter une association du nom de Quilombo. Que veut dire Quilombo ?
Quilombo, c'est un mot qui vient de l'ougandais. Vous êtes deux fugitifs. Et si on est 3, 4, 5, 6 et prend les 100, on forme une communauté. Cette communauté au Brésil s'appelle un quilombo.
Est-ce que les esclaves devenaient libres s'ils parvenaient à s'échapper ?
À quel moment est-ce qu'on est vraiment libre ? C'est une véritable question. Peut-être que certains se sont dit, à partir du moment où je me suis échappé, je pense que certains se sentaient libres.
En effet, ces groupes de marrons pouvaient atteindre une centaine d'esclaves. Et ces communautés marrones devenues libres représentaient une menace pour les colons qui sanctionnaient sévèrement tout esclave qui s'enfuyait définitivement, c'est-à-dire au-delà d'un mois.
Nous avons travaillé sur une archive conservée à Bordeaux qui condamne lourdement le marronnage. Un certain Télémaque était accusé d'avoir été chef de bande de nègres marrons, d'avoir ravagé plusieurs plantations. Il a été arrêté pour cela, il a été condamné à avoir les jambes, bras, cuisses ainsi que ses reins rompus par l'exécuteur de la haute justice sur un échafaud.
Pour garder leur liberté, certains fugitifs pouvaient aussi livrer aux autorités coloniales d'autres esclaves. Au XVIIIe siècle, des traités sont signés à la Jamaïque qui garantissent la liberté aux communautés de marrons en échange de la livraison de tout nouveau fugitif.
Merci Mao. Dénoncer des esclaves permettait donc d'obtenir la liberté pour certains. Les autres, amenés en Europe avec leur maître, réclament mais quant à eux, leur liberté devant la justice.
Tout à fait, Maël. Au XVIIIe siècle, plusieurs esclaves gagnent leur liberté en posant le pied sur les territoires métropolitains.
Nous avons étudié un autre moyen de gagner sa liberté. La révolte. Plusieurs insurrections ont eu lieu aux Antilles, mais à chaque fois, elles ont été sévèrement punies par des libres de couleur, c'est-à-dire d'anciens esclaves.
En revanche, Bali, la révolte de Saint-Domingue aboutit bel et bien à la suppression de l'esclavage sur cette île et accorde la liberté à tous les Africains et à leurs descendants le 4 février 1794. Ce décret concerne 700 000 esclaves, mais il sera appliqué différemment selon les colonies.
En effet, Romain, à la Martinique, il ne sera jamais appliqué puisqu'elle est occupée par les Anglais en 1794. Officiellement, ils sont tous devenus libres, mais malheureusement, la réalité est tout autre.
Par contre, à Saint-Domingue, la révolte donnera naissance à la première république noire libérée de l'esclavage en 1804, Haïti. Et en 1847, le retour en Afrique de 13 000 esclaves afro-américains libérés donne lieu à la création du Liberia, qui devient le plus ancien état indépendant du continent. Cependant, de nouvelles formes de domination se mettent en place entre les esclaves arrivants et les autochtones.
D'autres décrets revendiquant la liberté n'ont pas été appliqués, comme celui de Napoléon en 1815, qui interdit la traite des nègres et déclare qu'aucune expédition n'est autorisée pour ce commerce.
Pour preuve, une lettre envoyée par le secrétaire d'État au département de l'Intérieur le 31 mars 1821 pour Monsieur le Préfet afin de
prévenir les négociants au sujet d'un armement destiné en apparence à faire en Afrique la traite des mulets et à les transporter aux Antilles. Par les observations que j'ai faites à la Chambre de Commerce, vous jugerez combien il est vraisemblable que cette expédition est un armement pour la traite des nègres grossièrement déguisés.
Vous venez d'entendre la lecture de la lettre par Sacha. Nous sommes allés à la rencontre de Madame Blondel, historienne aux archives départementales de Rouen.
Avez-vous une archive plus récente qui montre que l'esclavage existait toujours alors qu'il est aboli depuis 1848 ?
Alors, probablement les registres d'inscription maritime. Et dedans, on peut voir la mention de noirs qui sont embarqués. Et ça, on en a jusqu'à la fin du 19e siècle.
En quoi cette lettre était importante ?
Elle est importante parce qu'il montre qu'il y a un contrôle, mais que ça existe toujours.
Malgré de nombreux textes qui interdisent la traite et l'esclavage, on constate que dans les faits, la liberté n'est pas acquise, et ce, presque un siècle plus tard.
Enfin, la liberté s'obtient aussi par des moyens légaux, comme l'affranchissement. À ce sujet, on trouve des témoignages d'anciens esclaves comme celui d'Oluda Ikano, enlevé à 11 ans de son village au Nigeria. Il aurait racheté sa liberté en payant 70 livres à son maître, mais la véracité de ce témoignage est remise en question aujourd'hui, faute de sources. D'autres sont récompensés de leur bon comportement en étant affranchis par leur maître.
Absolument, Elena, on sait bien que l'histoire évolue au fur et à mesure des découvertes. Ce qu'on sait aujourd'hui ne sera peut-être pas complètement valable demain.
Ces esclaves affranchis deviennent des libres de couleur, expression qui sera le reflet d'une société inégalitaire jusqu'au XXe siècle. Par exemple, en 1870, aux États-Unis, une loi interdit de restreindre le droit de vote pour des motifs raciaux, mais elle ne sera pas respectée. Ce n'est qu'en 1965 que les discriminations en matière de vote sont interdites.
Être libre, c'est aussi disposer de tous ses droits. Ça n'a pas toujours été le cas, notamment aux États-Unis où la ségrégation persistait jusqu'à la fin du XXe siècle.
Rosa Parks refusa le 1er décembre 1955 de céder sa place à un blanc dans le bus.
Arrêtée et condamnée, elle est tout de suite soutenue par Martin Luther King.
Ce sera le point de départ de la lutte en faveur des droits des Afro-Américains. Depuis, Rosa Parks reste une icône de la liberté et une héroïne de la lutte contre la discrimination.
À ce propos, tu savais, Mathéo, que l'esclavage moderne existe encore dans certains pays?
Mais pourtant, à l'heure actuelle, l'esclavage est interdit partout.
Nous donnons la parole à Ilona,
Manola,
Driss,
Jade
et Flora,
qui vous en diront plus sur ce sujet.
Merci Léa et Mathéo. Effectivement, malgré de nombreux textes comme la Convention de Genève de 1926 qui interdit l'esclavage, il semble toujours exister d'ailleurs. En 2008, Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, déclarait:
le commerce des esclaves a été aboli officiellement il y a 200 ans, mais cette violation flagrante des droits de l'homme persiste.
Et en 2010, lors de la journée internationale de la commémoration des victimes de l'esclavage, il disait:
l'esclavage est un crime abominable, pourtant il persiste sous des formes modernes. Certains perdent leur liberté à cause de leur dette.
En effet, en Afghanistan, des milliers d'habitants risquent la famine à cause de la pire sécheresse que connaît le pays depuis des décennies.
Avant la sécheresse, c'était déjà plus de 80% des familles qui étaient endettées. Ces derniers mois, incapables de rembourser leurs dettes, certains ont vendu leurs filles en mariage.
Selon l'UNICEF, 161 enfants âgés d'un mois à 16 ans ont été vendus entre juin et octobre 2018. Interrogés, ils ont tous déclaré qu'ils avaient été fiancés, mariés ou vendus car leurs parents étaient endettés. Aujourd'hui, dans le monde, encore 30 à 40 millions de personnes seraient victimes de l'esclavage, selon plusieurs organisations internationales.
Merci à tous pour vos interventions très intéressantes. Devenir libre revient à ne plus être la propriété de quelqu'un, mais c'est aussi avoir la possibilité de vivre et d'exercer tous ses droits. La liberté, plus qu'une conquête, reste donc une quête, un bien précieux de l'homme qu'il faut sans cesse défendre, affirmer et protéger. Telles sont les conclusions des élèves du Collège Paul Bert.
Mais d'ailleurs, Mathéo, Paul Bert n'était-ce pas celui qui avait écrit en 1888 que les Noirs étaient moins intelligents que les Blancs?
Tu veux dire qu'il était raciste?
Je ne sais pas trop. On devrait faire une autre émission sur ce sujet.
Bonne idée, Léa.
Chers auditeurs et auditrices, merci de nous avoir écoutés et à bientôt donc.